Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Des étoiles sous le chat à venir. On écrit sur les murs de nos rêves. Et on écrit sur les murs de nos rêves.
Rêver, imaginer, se lancer, réécrire et rebondir, c'est ce qu'ont fait les entrepreneurs que je vais interviewer dans le Tourbillon Family. Elles accompagnent notre quotidien de femmes, de futures ou jeunes mamans, nous soutiennent dans la maternité, elles éveillent nos enfants et les regardent grandir. Alors, qui sont les créateurs et les créatrices derrière ces marques qui révolutionnent l'univers de la famille? En grande curieuse et passionnée d'entrepreneuriat, j'ai décidé d'aller à la rencontre de ces visionnaires qui sont allés au bout de leurs idées pour apporter des solutions et une touche de bonne humeur au sein de nos tribus. Des invités nous racontent sans filtre comment est né leur projet, de l'idée jusqu'au succès. Bienvenue dans le Tourbillon Family. Aujourd'hui, c'est Dorothée, la fondatrice de Happy Bulle, qui nous raconte tout son parcours de l'idée au succès de ses précieux bijoux. Créer un bijou unique, graver les dessins de nos enfants pour que l'on puisse garder ce souvenir pour toujours, voilà l'idée que Dorothée a eue lorsqu'elle a plongé dans la maternité. Et pourtant, ce n'était pas vraiment la suite logique qu'elle avait imaginée pour sa carrière. Après des études d'ingénieur qui ne l'ont pas vraiment convaincue de son choix, elle démarre son parcours professionnel sans grande conviction d'être à sa place, mais sans savoir non plus que cela l'aiderait à devenir entrepreneur. Car en vrai, ce qu'elle aime Dorothée depuis l'enfance, c'est créer et faire des activités manuelles. Ce sera donc une chance de renouer avec ce loisir pendant son congé maternité, lorsque des amis vont lui offrir une mallette créative. C'est également un drame familial qui va lui faire prendre conscience que la vie est courte et qu'elle doit aller vers ce qui l'épanouit réellement. Et c'est quand sa fille dessine ses premiers bonhommes que Dorothée a l'idée géniale d'en reproduire un sur un bijou. Bingo, tout son entourage adore le résultat. Petit à petit, Dorothée va donc développer son concept, travailler la nuit tout en étant salariée et mère de 3 enfants. Alors comment a-t-elle finalement fait le grand saut dans l'entrepreneuriat? Quelles sont les difficultés qu'elle a rencontrées? Comment est-elle passée de petite créatrice de bijoux à chef d'entreprise avec des salariés? Comment a-t-elle géré sa vie de famille? Dans cet épisode, Dorothée nous raconte tout sur sa maternité, son parcours d'entrepreneur et sa marque de bijoux dont je suis complètement fan. Bonne écoute. Bonjour Dorothée.
Bonjour Shane.
Merci de nous raconter ton histoire d'entrepreneur dans le Tourbillon Family.
Et merci à toi de m'accueillir.
Alors, toi, tu es la fondatrice de l'entreprise Happy Bulle.
Exactement.
Est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi il s'agit?
Alors, Happy Bulle, c'est une start-up bordelaise qui propose un concept de personnalisation de bijoux inédit, puisque nous proposons en fait aux parents, en particulier aux parents, mais à d'autres également, de graver les dessins de leurs enfants. Donc, ça peut être tout type de dessin. C'est vrai qu'il y a beaucoup le premier bonhomme patate qu'a dessiné votre enfant, il vous plaît. Donc, vous venez sur le site, vous choisissez parmi 1200 références de bijoux et on grave sur la médaille ou le bijou de votre choix le dessin de votre enfant.
Génial, super idée.
Merci.
On va revenir au tout début, toi, on va repartir un peu dans ton enfance. Dans quel cadre tu as grandi?
Alors, j'ai grandi dans un petit village du Nord-Pas-de-Calais. J'ai eu une enfance très très heureuse, une adolescence très heureuse, très famille, dans un cocon familial très soudé avec mes grands-parents pas très très loin de la maison. Donc mon papa, donc qui est artisan couvreur à la retraite depuis peu, mais qui travaillait avec son beau papa, ma maman prof de sport, mon petit frère et voilà de. Du plus loin que je me souvienne, j'ai que des super souvenirs entourés des frères et sœurs de ma maman, mes oncles et tantes. J'ai 12 petits cousins. Je suis l'aînée en fait de la cousinade, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Ouais. Donc, j'ai grandi avec plein d'enfants, des réunions de famille très régulières, dans un petit cocon familial vraiment chouette.
Et est-ce que tu te souviens à quoi tu aimais jouer ?
Alors, je faisais beaucoup de musique. J'ai fait de la clarinette, j'ai commencé très jeune et ça a participé aussi à cette enfance que je décris comme étant vraiment super parce que j'avais un groupe d'amis très soudés avec qui j'ai partagé plein d'événements musicaux, on va dire. Donc, c'était une petite école communale, mais c'était vraiment chouette. Donc, je faisais énormément de musique. Et j'ai une maman qui est très manuelle, qui m'a vraiment transmis ça dès le plus jeune âge. En fait, elle faisait plein de choses avec ses mains, que ce soit de la couture, du tricot, du crochet. On bricolait toujours plein de choses. Donc, plus que du jeu, je me rappelle plus d'activités manuelles et créatives.
Est-ce que tu te souviens ce que tu aurais aimé faire plus tard, quand tu étais petite ?
Alors, c'est une très bonne question, parce que étant maman là, d'adolescente, j'essaye de sonder un petit peu pour savoir si d'ores et déjà elles savent ce qu'elles veulent faire. Pas vraiment, et je pense que j'étais comme elles. Je ne m'en souviens pas et je crois que ce n'était pas vraiment une préoccupation pour moi. C'est venu assez tard, quand il a vraiment fallu décider. Et j'ai été, avec le recul, je pense, je me suis mal orientée parce qu'avec vraiment cet attrait artistique, on va dire, et créatif, j'ai choisi une voie à l'opposé, puisque j'ai fait des études scientifiques.
Ah oui.
Un peu par défaut, parce que j'étais très bonne élève et que voilà, ça aurait été dommage de ne pas aller en classe prépa parce que vraiment j'étais bonne en maths. Donc j'ai suivi un petit peu les recommandations de mes profs et de mon entourage. Bon, finalement, c'était pas si mal de faire ça. Et voilà, je me suis coupée complètement de ce côté qui vraiment est très épanouissant chez moi. Je m'en suis rendu compte un peu sur le tard. Mais non, je me projetais pas. Je me projetais pas sur ce que je serais plus tard.
Et alors, quand tu es entrée en prépa, est-ce que là, tu avais une idée un petit peu plus précise de ce que tu ferais après ou tu as suivi vraiment au fil des années ?
C'est assez rigolo parce que non, je suis arrivée en classe prépa. J'ai rencontré des amis que j'ai encore aujourd'hui qui sont vraiment extra. Donc, j'ai passé des années fabuleuses, socialement parlant, on va dire. Par contre, voilà, pour ceux qui connaissent la prépa, c'est très dur. Donc, je me suis laissée un peu embarquer dans ce qu'on attendait de moi parce que j'ai ce tempérament, je pense, à pas trop faire de vagues et faire un peu ce qu'on me demande. Donc, j'ai passé la première année, ça s'est bien passé. Donc, une fois qu'on a fait le plus dur, on continue en deuxième année. Et puis là, il a fallu réfléchir à ce que je pouvais faire avec cette formation-là. Et là, ça a été un peu la douche froide parce que forcément, mon avenir professionnel se dessinait un petit peu mieux. Et je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout me convenir. C'était beaucoup d'agroalimentaire. Moi, je fais une classe prépa bio. Donc, okay. C'est un peu plus fermé, on va dire, que les classes prépa maths ou physique-chimie. Et donc, c'était beaucoup, beaucoup d'écoles agroalimentaires, l'école du bois, enfin, plein de choses où je ne me projetais pas du tout. Et c'est un peu comme si, en le disant aujourd'hui, je me dis, c'est incroyable quand même que je n'ai pas réfléchi, que j'ai attendu vraiment d'être au pied du mur et de cocher quelles écoles j'allais présenter pour me rendre compte que ça ne m'allait pas. Donc, j'en ai trouvé une qui était un peu plus en adéquation avec ce que j'aimais le mieux ou que je détestais le moins, je ne sais pas comment on peut le dire. Et donc, j'ai choisi une école que j'ai eu la chance d'avoir à Bordeaux qui était plus orientée bio, technologie des biomolécules pour être plus précise. Et donc, je suis partie à Bordeaux après mes 3 ans de classe prépa parce que j'ai tellement aimé que j'ai repiqué la deuxième année.
Et d'ailleurs, tu es arrivée à Bordeaux à quel âge ?
Eh bien, je suis arrivée à 21 ans, 3 ans après le bac. Je fais ma classe prépa dans le Nord. Et donc, comme c'était un concours national et que cette école en particulier n'était disponible qu'à Bordeaux, je suis venue pour ça.
Donc, gros changement de vie, de région. En tout cas, tu passes du Nord au Sud.
Ouais, effectivement. Et alors, j'adore ma région, hein, vraiment. Elle est dans mon cœur. Par contre, j'y retournerai pas, rien que pour le climat. Je crois qu'on est. Puis aujourd'hui, en plus, on a déménagé. On a la chance d'être pas très loin de l'océan, donc c'est une qualité de vie fantastique. Et puis j'ai rencontré Jérôme, qui est bordelais, donc plein de choses. C'est surtout Jérôme qui m'a fait rester plus que la météo. Hein. Je sais qu'il va écouter cette interview, donc moi, je le dis. Mais oui, changement de vie. Après, voilà, c'est un moment. En plus, mes parents ont divorcé à cet âge, enfin, pendant que j'étais en classe prépa. Et je crois que c'était bien. J'étais prête à partir un petit peu de ce cocon, justement, familial que j'ai décrit et qui a un peu explosé à ce moment-là. Donc, ce n'était pas des années très faciles. Et donc, m'éloigner un petit peu, ça m'a fait beaucoup de bien. Puis la région est vraiment chouette. Alors, l'école, un petit peu comme je l'avais pressenti, m'a pas forcément plus conquise que ça. Mais bon, j'en ai pris mon parti. J'ai fait mes 3 ans d'école d'ingénieur. Et puis voilà, j'ai été diplômée ingénieure en technologie des biomolécules. C'est très pompeux. Et tu vas me dire, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Mais oui,
c'est une bonne question. Parce que les mêmes questions qu'en prépa se sont posées. Et maintenant, où est-ce qu'on va travailler? Donc, beaucoup de mes amis de promo sont partis dans des grands groupes pharmaceutiques. C'est souvent un peu les débouchés principaux. Moi, j'ai eu l'opportunité de rester sur Bordeaux. Ça m'allait bien. Et j'ai commencé dans une petite start-up qui se montait, qui fabriquait de l'ARN. Alors, on en parle beaucoup ces derniers temps. Voilà, j'ai commencé ma carrière d'ingénieur comme ça. J'étais responsable de la production. C'est comme ça que j'ai découvert le monde du travail. Mes inquiétudes se sont confirmées. Ce n'était vraiment, vraiment pas pour moi. Vraiment pas pour moi. Mais bon, comme je te dis, j'ai ce tempérament-là. Finalement, j'avais fait tout ça pour... Puis c'est vrai, quand on est ingénieur, voilà, on a les parents qui sont fiers et tout ça. En fait, à chaque étape où j'aurais pu dire, en fait, non, ça me plaît pas, j'aurais pu le dire dès la prépa, en fait. Je pense qu'il y a une espèce de pression un petit peu quand on s'est engagé dans une voie qui fait que quand on est jeune, enfin, en tout cas, moi, j'ai pas eu, je pense, ni le courage, ni l'envie de m'arrêter en cours de route. Donc, j'ai fait tout bien jusqu'à la fin. Et puis, j'ai testé un petit peu ce qu'était qu'être ingénieur. Donc, au cours de cette première expérience de 5 ans, j'ai fait 5 ans. Puis, dans cette petite boîte, ça ne m'a pas plu du tout. Et je suis tombée enceinte de Valentine, ma première fille. Et là, ça a été l'occasion justement de réfléchir un petit peu et d'oser m'avouer que non, même si ce poste était chouette, il fallait que je trouve autre chose.
Est-ce que tu te souviens à quel moment tu t'es dit ça? Est-ce que c'était pendant ta grossesse, une fois que ta fille était arrivée?
Oui, en fait, le fait d'apprendre ma grossesse, il y avait beaucoup de stress dans cette petite start-up. C'était une expérience assez compliquée. Et le fait d'être enceinte, voilà, je pense que ça m'a donné le courage, en fait, de me poser, de me dire, je vais essayer de chercher autre chose. Rien que faire la démarche de faire mon CV, d'essayer de voir si je pouvais accéder à d'autres postes. Le fait d'être enceinte, ça m'y a aidé, ça m'y a poussé en tout cas. Et j'ai eu la chance par une amie en fait qui travaillait au CHU, de pouvoir être au courant, parce que les postes dans la fonction publique pour les ingénieurs sont assez fermés, souvent ça se fait en interne. Et là, donc, j'ai été mise au courant d'un poste dans le service de génétique du CHU de Bordeaux. Donc, j'ai déposé ma candidature et puis je crois que j'ai passé l'entretien, je devais avoir accouché depuis une semaine ou deux. J'ai passé l'entretien juste après avoir accouché et puis ça s'est concrétisé, donc c'était chouette. J'ai pu profiter de cette mesure qui dit que quand on démissionne pendant son congé maternité, on n'a pas de préavis, donc ça s'est très bien goupillé et puis je suis super retournée finalement.
Ah oui.
Et donc là ça a été chouette. Là je me suis dit en fait voilà, rien n'est figé et finalement quand on veut, même si on n'est pas forcément bien et qu'on a l'impression qu'on est un petit peu qu'on n'a pas le choix, si. Toujours changé. Après, ça n'a été qu'une suite d'événements qui ont confirmé ça. Donc, je suis rentrée au CHU avec. Là, j'ai dû reprendre très vite parce que j'ai même pas pu avoir le congé maternité classique. J'ai dû reprendre. Ma petite avait deux mois juste. Donc, ça a été un peu rude parce que quand on prend un nouveau job, c'est toujours un peu compliqué. Mais j'étais très contente parce que le domaine médical, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. En fait, je m'en suis rendue compte à ce moment-là. Mais j'étais vraiment dans autre chose. C'était plus l'industrie, c'était un fonctionnement différent. Et voilà, ça m'a bien plu. J'étais sur une technique de pointe. J'ai mis en place la CGHRE, ça s'appelle, pour rentrer dans les détails. C'est un karyotype haute résolution. Et je me suis rapprochée par ce biais-là du domaine de l'enfance parce qu'on travaillait sur des diagnostics prénataux. Et donc, voilà, je participais à des staffs. Tout ce domaine de la périnatalité, ça m'a, comme je venais d'avoir ma petite aussi, c'est vraiment un domaine qui m'a attiré beaucoup. Et de par mon métier, j'ai pu m'en rapprocher. Donc, c'était vraiment chouette.
Mmh. Donc là, tu es restée combien de temps à ce poste?
Donc là, je suis restée 5 ans aussi, sachant que c'était très chouette, mais il y a aussi des petites choses qui étaient un peu plus compliquées parce que le statut d'ingénieur dans le domaine médical n'est pas très bien reconnu. C'est vrai qu'il y a les techniciens et puis les médecins, et puis l'ingénieur, il est un peu entre deux et j'ai du mal un peu à trouver ma place. Et puis, j'ai vécu un événement assez douloureux parce que j'ai perdu mon petit frère dans un accident de la route. Donc, ça a été... c'est compliqué. Je venais d'apprendre ma deuxième grossesse. J'étais enceinte de quelques semaines.
Ah oui, au même moment.
Oui. Donc, ça a été... mon petit frère avait 23 ans, une petite fille de 2 ans. Ça a été assez dur. Et je pense que cet événement... Alors, je l'analyse comme ça aujourd'hui, mais moi, je me suis vraiment protégée. Enfin, j'ai voulu protéger mon bébé. Donc, j'ai certainement vécu en me fermant, en étant très dure, en fait. Et, mais par contre, une fois que... Donc, c'est Louison, ma deuxième fille. Une fois qu'elle est arrivée, là, je pense que cette perte m'a fait me dire que la vie était courte, qu'on ne savait pas de quoi demain était fait et que clairement cette voie que j'avais prise et choisie entre guillemets depuis des années n'était pas la bonne. Et même sans le formaliser comme ça à l'époque, c'est là où j'ai commencé à revenir à mes premières passions, si on peut dire, et je me suis remise à bricoler les choses. Ce que j'avais complètement occulté pendant plus de 10 ans. Et c'est aussi, je te parle de ça, c'était il y a une dizaine d'années. Donc, c'était le début un peu de l'avènement des loisirs créatifs. On en commençait à en reparler beaucoup. Ça devenait un peu tendance. C'est vrai qu'on ressortait des choses que j'avais pu faire, moi, avec ma maman. Je parle, je sais pas, du point de croix ou des choses comme ça. Ouais. Ça revenait un petit peu à la mode. Donc, on trouvait de quoi faire des loisirs créatifs un peu partout et facilement. Et donc, ça m'a fait beaucoup de bien. Et c'est assez rigolo. C'est pour mes 30 ans. Donc, c'est quelques mois avant la création d'Apibule. Pour mes 30 ans, mes amis m'avaient offert une grande mallette avec plein de fournitures de loisirs créatifs. C'est le cadeau que j'avais eu. Donc, je leur dis, c'est un peu grâce à eux qu'Apibule est né, parce que c'est avec ces petites pinces et tous ces petits trucs qu'ils m'avaient mis dans cette mallette qu'Apibule est né.
Du coup, Apibule arrive quelques mois après ta reprise, c'est ça?
En fait, ma fille est de début 2010, donc non, en mars 2010 et j'ai créé vraiment l'entreprise en auto-entreprise fin 2011. Donc il y a quand même un peu plus d'un an où ça a été des mois très compliqués parce que mon frère n'était plus là, mes parents, ça a été très dur, ma mère a eu un cancer et tout ça un petit peu, je pense, maturé dans ma tête. Après, je n'ai pas du tout créé l'entreprise pour en vivre.
Donc, du coup, là, tu retouches un peu du doigt les activités créatives, comme tu disais. Tu retournes travailler assez rapidement aussi après ton congé mat.
Oui, j'y retourne sans prolonger le congé maternité légal, on va dire. Donc, je suis salariée à temps plein avec une petite fille de 2 mois et demi et une autre de 20 mois de plus. 2 enfants assez rapprochés. Ouais. Et donc, je retourne travailler.
Comment tu t'organises, justement, avec tes...
L'organisation est assez compliquée parce que 2 enfants très rapprochés et puis un mari qui est très pris parce qu'il travaille à ce moment-là dans un grand groupe e-commerce avec un poste à responsabilité. Et donc, il a des horaires assez conséquents. Même si c'est un papa qui a toujours voulu énormément participer à l'éducation de ses enfants, les choses font qu'il n'est pas forcément très disponible. Donc, on s'organise comme on peut. C'est fatigant, comme tous les parents le savent. Mais les deux grandes, la troisième, c'était différent. Mais les deux grandes étaient mignonnes quand même.
Ouais.
Donc, on dort à peu près bien, ce qui fait que ça rend les choses un tout petit peu plus faciles.
Ouais. Et donc, toi, quand tu retournes travailler à ce moment-là, ce côté créatif qui a un peu ressurgi, un peu sous-jacent, comment tu te sens à ton poste? Est-ce que tu vois déjà que tu n'es plus vraiment à ta place ou pas tout de suite?
Alors, ça vient un peu progressivement et surtout, ça n'est pas pour moi. Ce côté créatif n'est pas pour moi. Ne peut pas me faire gagner ma vie en fait. Donc jamais, je me projette sur changer de travail pour vivre. Je ne m'imagine même pas en fait. Donc par contre, ça m'aide. Ça me permet, moi, le soir, le week-end, de m'évader un petit peu et de faire des choses apaisantes. Ça me permet de retrouver un équilibre plutôt chouette parce que c'est épanouissant pour moi. Mais ça reste vraiment un loisir et un passe-temps.
Ouais. Donc, tu ne te dis pas, mais qu'est-ce que je fais à ce poste, j'ai rien à faire ici, ça ne me plaît pas.
Alors, je me le dis, mais ayant deux enfants, un mari qui a un poste qui ne me permet pas, moi, éventuellement peut-être de m'arrêter pour me former sur un autre métier, la question ne se pose même pas. D'autant plus que Jérôme, à ce moment-là, lui, change de métier et est en train de changer de vie. Et il quitte tout et il se lance dans un master en gestion de domaine viticole pour reprendre l'exploitation, le vignoble familial. Donc, c'était pas mon tour à ce moment-là. Là, mon rôle était plutôt de bien m'occuper des petites pour que, justement, ils puissent reprendre ses études. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, c'est toujours un peu compliqué quand on a une famille. Donc, oui, je me dis que je suis pas forcément bien, ni à ma place, mais ça va pas plus loin que ça.
Et alors, à quel moment ça se développe un petit peu plus dans ta tête, dans ton quotidien?
Alors, Jérôme abandonne son projet parce qu'il essaye de le mener à bien, mais pour plein de raisons, on se rend compte que ça va être difficilement réalisable. Donc, il retrouve un job dans son secteur et il va travailler pour Cultura. Donc là, j'étais ravie parce que il revenait tout le temps avec plein de petits échantillons, c'était super.
Ah oui.
Et effectivement, à ce moment-là, lui, retrouvant un emploi stable, on va dire, là, je commence à me dire que peut-être ça pourrait être mon tour. Enfin, et encore, je te dis ça. Je dis ça avec un peu de recul, mais même quand j'ai immatriculé à Happyville pour la première fois, dans ma tête, ça n'allait jamais être une entreprise qui allait me permettre de quitter le CHU et d'en vivre. Je le voyais plus comme éventuellement réduire peut-être mon temps de travail au CHU et avoir une activité complémentaire qui me donne un certain équilibre. C'est plus comme ça que ça s'est passé. Donc là, on est fin 2011. J'ai l'idée, en fait. C'est à ce moment-là que ça arrive. Donc l'idée, elle arrive parce que Valentine, mon aînée, a 3 ans à ce moment-là et elle dessine. Alors, tous les enfants dessinent, mais elle dessine. Encore aujourd'hui, elle a 14 ans, c'est impressionnant, elle est prolifique. Et donc, elle dessine partout, tout le temps, elle nous met des dessins partout. Comme tous les parents, forcément, on est en admiration devant ses créations.
Ouais.
Moi, par ailleurs, donc, j'avais repris, comme je le disais, cette activité manuelle et je faisais pas mal de petits bijoux. Et je fais des bijoux en résine à cette époque-là. Valentine dessine énormément et un jour, j'ai l'idée de miniaturiser en fait un de ses dessins. Donc, de le numériser, de l'imprimer à la taille d'un bijou et de l'inclure dans de la résine. Et je porte ce bijou. C'est, à l'époque, c'est vraiment c'est le prototype. Et autour de moi, quand je le porte au travail, la famille, tout ça, tout le monde me dit « Mais c'est génial, on n'a jamais vu ça. » En plus, c'était assez coloré. Tout au départ, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Je prenais des fonds colorés et je mettais le dessin en noir ou en blanc, en fait, juste le trait très simple. Et donc, c'est l'été, voilà, j'associais mes bagues, mes colliers à mes tenues. Et c'est vrai que, voilà, autour de moi, j'en étais la première surprise. Chaque fois, je parlais à quelqu'un qui voyait mon bijou et je racontais un peu l'histoire et c'est moi qui l'avais fait. Vraiment, les avis étaient unanimes et très, très positifs. Ça chemine un petit peu. Et puis, je me dis un jour, pourquoi pas, c'est facile maintenant de créer un petit site internet. Peut-être que si les gens, quand ils découvrent ce concept, ce concept, c'est un bien grand mot à l'époque, mais cette idée, ça leur plaît, peut-être que ça plaira à d'autres. Donc, je me renseigne rapidement sur la manière de lancer un site internet. Il y a vraiment des solutions très faciles pour les novices. Pour la petite histoire, Jérôme part jouer au poker avec ses amis un soir. Quand il revient, je sais pas, peut-être à 2 ou 3 heures du matin, le site est en ligne. J'avais fait les photos, fait les visuels produits. Alors, le catalogue était très restreint. Mais en tout cas, le site était prêt et était en ligne. Donc, c'était assez drôle parce qu'une semaine après, on avait des commandes. Et c'est là où Jérôme, qui a lui l'expérience du e-commerce, pas du tout dans la même catégorie, mais il a très vite, lui, senti que, qu'il y avait quelque chose d'un peu exceptionnel dans ce qui se passait, quoi, en tout cas de extraordinaire. Moi, j'ai mis très longtemps à m'en rendre compte et à y croire parce que j'ai eu peur au début, en fait, de me dire que peut-être j'allais pouvoir changer de vie alors que non, c'était quelque chose qui n'allait pas durer. Mais très, très vite, lui, Jérôme, a senti que cette idée était bonne et qu'il y avait quelque chose à faire avec.
Et alors, pour cette mise en ligne du site, comment t'as fait ? Tu connaissais rien
Alors non, j'y connaissais rien. Par contre, il y a quelque chose que j'adore. J'ai tout le temps adoré. J'adore découvrir des nouvelles solutions, que ce soit numérique ou... et me faire les petites notices et regarder les petites lignes et comprendre comment ça marche. Alors, ça doit être mon côté ingénieur quelque part, tu sais, apparemment, il n'y a pas de mystère. Si j'ai fait cette formation, c'est peut-être que j'avais quelques aptitudes. J'ai fait un petit benchmark de 30 minutes. J'ai choisi ma solution.
Et puis, c'était laquelle ?
C'était Jimdo. Ça s'appelle Jimdo. Je pense que ça existe encore. Et c'est vrai que c'est génial parce que ça coûte rien. Alors, j'avais pas acheté le domaine, hein. J'avais pas déposé la marque, j'avais rien fait. Donc, ça s'appelait happybulle.jimdo.com, le site. Et donc, ça m'a rien coûté. J'avais fait mes petites photos. Jérôme avait commencé à mon, parce qu'il est graphiste de formation. Il m'avait fait une petite formation éclair Photoshop Illustrator. Donc, je m'étais débrouillée. J'avais détouré mes petits trucs. Et ça, attention, hein, c'était pas super abouti, mais assez pour avoir les premières commandes. Donc voilà, j'ai pris la solution comme elle venait et puis je me suis auto-formée très rapidement.
Et comment tu as choisi ce nom, Happybulle ?
Alors, c'est rigolo parce que il y a toute une... j'ai choisi très intuitivement parce que ça sonnait bien. Mais après, il y a une histoire un petit peu derrière parce qu'à l'époque, donc, c'était de la résine. Donc, je mélangeais les deux composants, je coulais ça dans mes petits supports. Et donc ça, je le faisais une fois que mes enfants étaient couchés. Et le problème de la résine, c'est que ça fait des bulles. Et donc, il fallait que j'attende un petit moment devant mes bagues, mes pendentifs et tout ça pour que les bulles montent et que je les éclate. Et je mettais mon réveil la nuit, généralement à 2h, puis à 4h, pour aller voir les petites bulles et les enlever.
Ah oui.
Et quand j'ai raconté ça, on m'a dit « Ah, mais c'est pour ça que tu as appelé ton entreprise Happybulle, en fait ». En fait, pas du tout. Mais finalement, les bulles ont toujours eu une place prépondérante dans l'aventure. Et puis, la Happybulle, en fait, c'est le foyer, c'est notre bulle à nous. Et comme on est d'un naturel plutôt gay, voilà, le nom s'explique comme ça.
D'accord. Et alors, est-ce qu'à ce moment-là, tu fais participer tes filles à ce début d'aventure ? Est-ce que tu leur expliques un petit peu ?
Et non seulement je leur explique, mais en fait, elles y ont tout le temps participé, même encore aujourd'hui. Alors, Louison était petite, elle avait un peu plus d'un an. Mais Valentine, elle est hyper fière, forcément, parce que bah, après que j'ai porté, moi, les bijoux, bah, forcément, même avant que le site soit lancé, il y a les mamies qui ont chacune eu le dessin de Valentine. Donc après, c'était rigolo parce qu'elle me tendait des dessins. Donc ça, c'était pour une bague, ça, c'était pour un collier, ça, c'était pour ça. Donc, on est hyper fiers aujourd'hui parce qu'on le dit souvent quand on nous pose la question que c'est grâce à elle aussi finalement que l'idée est venue. Donc on est très fiers. Et Louison, c'est un peu différent parce qu'elle a dessiné beaucoup moins tôt que sa sœur, même si aujourd'hui elle s'est rattrapée. Mais le fait qu'elle n'ait pas elle de création à apporter, ça l'embêtait. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire les empreintes. Parce qu'elle était trop petite pour dessiner, en tout cas un peu plus petite que sa sœur. Et donc, on a fait les empreintes de main et les empreintes de pied de Louison. Donc, je portais les dessins de Valentine et les empreintes de Louison. Donc, elles ont dès le début été très associées à tout ça. Et même, parce que ça a été compliqué, je travaillais à temps plein. Donc, elles me voyaient, j'avais mon bureau dans la salle à manger. Et à l'époque, on envoyait tout ça en lettres suivies. Et donc, il fallait déballer. Je recevais des cartons de je sais pas, 500 lettres suivies. Et donc, leur boulot, c'était de les sortir du petit blister. Donc, j'ai des photos, c'est rigolo. Elles sont dans des montagnes de blisters de lettres suivies. Et elles se rappellent encore aujourd'hui. C'est assez drôle.
Ouais. Et alors, donc, ce site se lance sans nom de domaine, début de l'aventure. À quel moment tu as tes premières commandes ? Comment ça se passe ? Comment t'en parles aussi ? Parce qu'au début, t'en parlais juste aux personnes que tu rencontrais, à tes proches, j'imagine.
Oui, donc au tout début, bah, les premières commandes, j'avoue que c'est encore un mystère, on ne sait pas encore trop comment elles sont arrivées. Mais donc ça, donc l'immatriculation, enfin le lancement du site, ça devait être fin octobre 2011. Et en décembre, je contacte un magazine qui s'appelle Bubble Mag. Je ne sais pas d'ailleurs s'il existe toujours. Et ils nous font, on a un partenariat juste génial. En fait, ils trouvent le concept extra, ils aiment bien l'aventure, le fait que voilà, notre aventure familiale à nous. Et ils font un concours, je crois. Et là, ça nous fait exploser les visites. Et on fait, alors exploser les visites, ça va faire rire certains. Mais, et donc, sur décembre, on fait 2000 euros de chiffre d'affaires. Et 2000 euros de chiffre d'affaires, c'était... Enfin, là, je me suis dit, mais c'est juste... c'est incroyable, en fait, ce qui se passe. Alors, la contrepartie de ça, c'est que bah, pour faire 2000 euros de chiffre d'affaires en travaillant à temps plein, c'est avec deux enfants en bas âge... en se levant deux fois par nuit pour aller faire éclater des petites bulles, c'est un peu compliqué. Et donc, on découvre bah, notre première saison. Et donc, bah, aujourd'hui, notre quotidien est toujours rythmé par ces deux périodes, Noël et la fête des mères, où on sait que bah, voilà, pendant un mois en décembre et deux mois en mai et juin, bah, on ne touche pas terre parce que c'est la saison et qu'il y a plein de commandes. Donc voilà, c'est comme ça qu'a commencé l'aventure.
Et quant à ces commandes, donc pour 2000 euros, est-ce que tu as toute la matière qu'il faut pour...
Et non. Non, en fait, je navigue complètement à vue parce que c'est une chose de faire un petit bracelet pour mamie et d'en faire 150 et de les envoyer, etc. Donc, bah, très vite, je cherche des solutions. Pareil, mon côté ingénieur, je pense rationaliser un petit peu tout ça, voir comment je pouvais me passer de cette résine qui clairement était... pas du tout scalable, comme on dit. Donc, je trouve des solutions, je modifie ma technique. Donc, j'ai travaillé après avec des dômes. Je commandais des dômes à la taille de mes supports. Donc, en fait, la résine était pré-coulée. Donc, ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Et puis, j'ai vite eu envie de diversifier les produits parce que la résine, c'était très, très chouette, mais ça restait toujours un fond coloré. Et donc, j'ai eu l'idée de graver les bijoux. Mais alors, à l'époque, le seul investissement que j'avais fait, c'était une machine à badge parce qu'on vendait, je vendais des miroirs, des porte-clés, des magnettes. Et donc, cette machine, elle coûtait 500 euros. Et je me souviens que bah, avec Jérôme, on s'était fait presque une assemblée générale autour de la table à se dire, alors voilà, cette machine coûte 500 euros. Qu'est-ce qu'on peut espérer comme rentrée d'argent en investissant ces 500 euros? Enfin, voilà, on s'était vraiment posé la question. Et on l'avait acheté. Et donc là, se posait la question de graver des bijoux. Et il était inenvisageable à ce stade d'acheter une machine pour graver les bijoux sans savoir si ça allait marcher. Donc, j'ai trouvé un sous-traitant qui travaillait complètement différemment. Mais moi, j'ai réussi à détourner l'utilisation de la machine en faisant des fichiers informatiques particuliers. Et donc, je lui envoyais clé en main le fichier, ayant compris comment fonctionnait la machine. Donc, je faisais le fichier. Lui, il travaillait pas du tout comme ça. Donc, je savais qu'il allait pas me copier parce que le fichier, il savait pas comment le faire, de toute façon. Et donc, il m'a fait pendant quelques mois, je pense. Les gravures étaient faites par lui. Très confortable parce que forcément, ça me coûtait un peu plus cher. Mais sans investissement, j'ai pu tester s'il y avait vraiment une demande de bijoux gravés et effectivement ça a vite pris le pas sur la résine. Donc on a fait notre premier prêt et j'ai acheté ma première machine à graver.
Ah.
Voilà, donc une machine qui fonctionne par impact. Donc aujourd'hui on en a 18 dans les entrepôts, dans les ateliers. Et donc j'avais ma machine, c'est assez bruyant, qui était sous la chambre de mes filles et donc qui je tremblais de les réveiller quand je travaillais là le soir. Donc, je gravais. Donc, j'ai pu graver moi-même. Et là, c'était génial parce que c'est vrai que sous-traité, il fallait que ça repasse par moi, que je fasse les emballages. Donc, c'était assez compliqué. Et après, là, je pouvais graver ce que je voulais, comme je voulais. Donc, ça a été super.
Et au niveau des bijoux, comment tu as trouvé les différents modèles de bijoux?
Alors, c'est vrai que le sourcing, c'est vraiment le nerf de la guerre. Il faut pouvoir trouver. Donc là, j'ai cherché, j'ai essayé de me renseigner comme je pouvais sur où trouver les bijoux. Je suis allée à Paris, Donc, j'ai rencontré quelques fournisseurs. Le problème, c'est que j'étais toute petite, en fait. Donc, la première commande que j'ai passée, j'ai eu un super feeling avec, avec le commercial qui, pareil, je pense que notre aventure, elle a un côté… on réussit à fédérer un petit peu les gens autour de nous parce que, voilà, l'aventure est belle, c'est, l'idée est chouette et on est tellement enthousiastes que je pense que ça nous a pas mal aidé. Et donc là, je réussis à négocier le minimum de commandes parce que c'était 1 500 € à l'époque, la première commande de bijoux. Et c'était énorme. Donc, avec un petit peu de gouaille, c'est passé. On a diminué le minimum de commandes par 2 et après, et on en a souvent reparlé, hein. C'est encore notre fournisseur aujourd'hui. Et c'est vrai qu'ils nous ont fait confiance au tout début. Voilà, maintenant, aujourd'hui, on est sur des volumes qui n'ont rien à voir, mais on a gardé notre fournisseur historique.
Et donc là, vous faites tout un business plan, j'imagine, pour savoir à quel prix les vendre, avec les frais de port aussi pour l'envoi.
Alors ça, c'est pas trop ma partie, je t'avoue. Moi, je fais ça toujours de manière très intuitive. Par contre, là, Jérôme, à ce moment-là, donc l'entreprise, le site s'est créé en 2011. Je fais toute l'année 2012, voilà, un peu compliqué, où je gère un peu seule. Et Jérôme commence à s'y intéresser de plus en plus près. Et donc, il m'accompagne sur toute cette partie-là. C'est comme ça un peu qu'il commence à prendre part à l'entreprise, parce que lui est très, très carré. Et donc, il me fait des business plans. Et là, il me sort des chiffres. Il me dit, voilà, vu ta tendance, etc. Tu feras, mais les chiffres, je les ai même plus en tête. Et je t'assure, mais je pouffe de rire. Je lui dis, mais parce qu'il lui fait ça à 3 ans, à 5 ans. Et donc, même de manière scientifique, il me dit, normalement, si tout se passe comme ça, à partir de telle date, tu pourras t'y consacrer à temps plein, éventuellement quitter l'hôpital, etc. Mais pour moi, c'était n'importe quoi. C'était un délire. et en fait, c'est incroyable parce que, à quelques milliers d'euros près, sur 5 ans, il s'est pas trompé. Et il a eu raison. Donc lui, il m'a aidé effectivement à structurer un petit peu tout ça, à aussi réussir à me projeter sur comment j'allais continuer à pouvoir gérer l'emploi salarié et à Pibu, parce que ça devenait vraiment très compliqué. Et puis Aimé, notre troisième fille, est arrivée. Donc là, en fait, ça m'a permis de faire une saison. Alors, ce congé maternité est très, très particulier parce que Aimé est née le 26 juin. Donc, la fête des mères, c'est fin mai. La fête des pères, c'est mi-juin. Ça a été la pire saison, je pense, pour moi. J'ai fini par graver les bijoux avec un ventre énorme. Mais selon le business plan de Jérôme, je pouvais espérer ne pas retourner à l'hôpital à l'issue de mon congé maternité. Et donc, la décision a été prise comme ça sur l'atteinte de certains objectifs. Et donc, les objectifs ont été atteints. Et donc, j'ai posé ma démission parce que je ne pouvais pas… la fonction publique, c'est compliqué. Donc, j'ai dû démissionner. C'est vrai que c'est des décisions qui ne sont pas faciles à prendre quand on a 3 enfants et qu'on a un bon poste, en fait. Mais grâce à Jérôme et son côté mathématicien et comptable, ça s'est bien goupillé.
Ouais. Donc là, c'est au retour directement de ton congé mat.
Alors j'ai fait pareil que la première fois. En fait, j'ai démissionné à l'issue de mon troisième congé maternité en 2013. Et donc en suivant, on s'est associé parce que Apibu était une auto-entreprise jusque-là.
Ok.
Donc avec toutes les facilités qu'amène cette structure juridique, qui moi, enfin sans cette structure, cette possibilité-là, je l'aurais pas fait. Mmh. Et ça a été génial pour se lancer, mais ça devenait un peu limitant. Donc, on s'est associé avec Jérôme, on a créé une SARL en 2014.
D'accord. Et lui garde son poste à ce moment-là, en revanche.
Alors, lui prend un congé parental d'un an à ce moment-là.
D'accord.
Justement, pour se laisser un an, pour voir dans la mesure où moi, je n'étais plus salariée et qu'on allait s'y consacrer avec un peu plus de temps, voir si toujours les objectifs qu'on s'était fixés allaient pouvoir être atteints.
Et alors, comment ça évolue? Toi, donc, tu deviens entrepreneur à 100%. Dans quel état d'esprit tu es?
Alors là, c'est l'euphorie. L'euphorie complète. Parce que, arriver après 3 années assez compliquées quand même, assez intenses, à me dire que oui, j'allais peut-être pouvoir, enfin très certainement pouvoir vivre de cette aventure et de ce côté manuel qui m'a tellement manqué. Donc, ça a été concomitant aussi avec les premiers bureaux. Jusque-là, on était chez nous.
Ah.
Donc, on s'est associés, on a eu nos premiers petits bureaux. Et je me souviens de partir travailler et de me dire, mais c'est incroyable en fait ce qui se passe là. C'est juste, ce qui nous arrive, c'est juste génial. Donc, il y a une période d'euphorie pendant quelques mois, là, tout au début. Donc, on se structure, on a notre première stagiaire. Enfin, après, c'est que des premières fois. C'est comme avec les enfants en fait. C'est
ouais.
Donc la première stagiaire, puis la première salariée, puis le premier déménagement parce que les bureaux sont trop petits. Puis le premier salon pour aller essayer de trouver une autre technique parce que voilà les bijoux c'est super mais j'aimerais bien aussi développer une gamme homme et pour développer une gamme homme faut des accessoires donc je réfléchis à une autre technique et c'est le laser qui me parle le plus donc je vais sur des salons pour essayer de faire des tests etc aux commerciaux et donc la première machine là le premier crédit bail qu'on fait pour une machine qui coûte pour le coup, près de 40 000 euros. Donc là, ça y est, on passe un peu pour des grands. Et en fait, tout s'enchaîne et c'est génial, en fait. C'est génial. Et moi, c'est les années que j'ai préférées parce qu'on était encore tout petits, finalement. On était encore tout petits. Moi, je faisais encore les bijoux. Et après, alors c'est génial, hein, je dis pas que le fait que l'entreprise grossisse n'est pas chouette, hein, mais c'est vrai que voilà, ce côté toute petite boîte en création, bah, j'adore ouais. J'adore les débuts.
Et alors, comment tu as justement trouvé ces bureaux? Comment on cherche des bureaux quand on veut être à l'extérieur de chez soi, quand on grandit un petit peu?
Ben, on a un super mari qui prend sa voiture et qui sillonne les alentours.
Ah ouais.
c'est vraiment comme ça que ça s'est passé parce que bon, on a pris la voie classique, hein, on a fait des petites annonces un peu, les agences immobilières, etc. On ne trouvait pas grand-chose et Jérôme, à un moment, s'est dit bah non, mais moi, je vais aller directement voir dans les. On était à Mérignac à ce moment-là, donc c'est vrai que c'est une ville qui a pas mal de bureaux, enfin de zones un peu d'activité. Mais on voyait plein de bureaux, mais on savait pas, on les retrouvait pas sur les petites annonces. Donc Jérôme est allé un peu au culot, taper à des portes et pareil, on est tombé sur un propriétaire qui doit avoir, je sais pas, peut-être 80-85 ans, un entrepreneur qui a entrepris toute sa vie. On lui a raconté notre projet, il nous a dit bon, allez, je suis ok pour vous faire un bail précaire parce que c'est pareil, on voulait pas, on avait peur de prendre un 3-6-9, un bail commercial classique, c'est quand même très engageant. Et on est très prudent, donc on a négocié le bail précaire et on est rentré dans ces petits locaux. Enfin, ces petits locaux, non, on avait, nous, 70 mètres carrés, mais dans une zone de bureau immense avec une petite cour intérieure, une fontaine, tout ça, c'était génial, à 3 minutes de la maison. Donc, merci Jérôme. et après, une fois qu'on a eu ces bureaux-là, ça a été plus facile parce qu'on, déjà, on était... installés, on avait pas mal de gens autour de nous, d'autres entrepreneurs, et c'est vrai qu'avec le bouche à oreille, on trouve plus facilement. C'est le premier bureau qui a été un peu plus compliqué. Après, on a déménagé 3 fois au sein de la même structure de bureau, donc à chaque fois, d'ailleurs, on faisait rire parce que tous les 6 mois, on allait taper à sa porte pour lui demander s'il avait pas 50 ou 70 mètres carrés de plus, jusqu'à redéménager encore une fois là dans les bureaux d'un ami à nous. Qui venait de faire construire un bâtiment de 400 mètres carrés et qui était super parce que c'est vrai qu'on a une activité un peu particulière. On ne fait pas que du tertiaire, en fait. On a une partie atelier. On a besoin d'une partie atelier avec des machines qui peuvent être un peu bruyantes. Donc, c'est pas forcément facile d'aller dans un immeuble de bureau classique. Et on a besoin aussi d'une partie bureau. Et donc là, on a trouvé un super bâtiment. Et puis là, assez récemment, on a fait construire notre propre bâtiment dessiné. On a 800 mètres carrés.
Waouh!
Et là, c'est génial parce que c'est comme quand on se fait construire une maison. C'est-à-dire qu'on met les murs où on veut, on met les fenêtres où on veut, on a un atelier super lumineux, tout est. Enfin, c'est top.
Ouais. Et au niveau des salariés, donc pareil, première ou premier salarié, parce qu'il faut définir aussi un poste précis peut-être au départ. Est-ce que ça a été.
Ouais, alors. En même temps, il faut dessiner un poste précis et nous, ce qu'on a recherché très vite, c'était de la polyvalence parce qu'on ne pouvait pas se permettre d'avoir un salarié qui allait faire plus du marketing, un salarié qui allait faire que des bijoux. Enfin, c'était trop, en fait, de recrutement. Donc, on a cherché la perle rare et on a trouvé, pareil. Au début, on a pris une stagiaire qui s'appelle Pauline, qui était très manuelle aussi. Et en fait, ça lui a beaucoup plu parce qu'elle touchait à tout. Et je pense que ça a été la partie vers d'autres aventures à l'étranger maintenant. Mais ça a été aussi chouette pour elle que pour nous parce qu'on s'est très bien entendu. C'était très familial au départ. Donc il y avait Jérôme, moi et Pauline. Donc on mangeait nos petits sandwichs tous les trois, tous les midis. Moi, je faisais des bijoux avec Pauline. Et puis après, Pauline, elle allait avec Jérôme pour faire de l'acquisition. Enfin, c'était top, quoi. On faisait tous un peu tout. Et donc voilà, il y a Pauline. Après, il y a eu plein de salariés. C'est vrai que c'est pas évident parce qu'on découvre des métiers. Moi, c'est la difficulté que je rencontre un peu parce qu'on est chacun doué pour des choses en particulier. Et puis quand on se retrouve entrepreneur, il faut être doué dans plein de domaines en même temps. Et on sait pas tous tout faire, quoi. Donc recruter, c'est un métier. Donc des fois on se trompe, on apprend sur le tas. Pareil, faire de l'acquisition ou discuter avec le comptable, moi, c'est pas mon truc, quoi. Mais pourtant, je dois le faire. Donc, chez nos salariés aussi, on a toujours les gens qui aiment la polyvalence. Je pense, aujourd'hui, on a un peu grossi, mais dans toutes les premières années, on a cherché des profils comme ça parce que c'était des gens qui allaient s'épanouir avec nous. Et voilà, moi, je trouve ça super chouette, moi, personnellement, de pouvoir découvrir plein de domaines, quitte après à se spécialiser quand on sait ce qu'on veut faire. Mais c'est ce qu'on a proposé au départ et bon, ça a plutôt bien marché.
Ouais. Et à quel moment, toi, tu as réalisé que tu étais une entrepreneure avec tout ce que tu as construit?
Je ne sais pas si j'ai réalisé, tu sais, le syndrome de l'imposteur, en fait. Non, je ne sais pas. Je suis vraisemblablement une entrepreneur, mais tout ça se fait sans trop le mentaliser, quoi. Je sais pas. Ouais. Ça se fait. Moi, ce que je vois là avec un peu le temps, c'est que déjà avec Jérôme, on est très, très différents, mais très compatibles. Et donc, ce que j'aime pas forcément faire ou là où je suis moins à l'aise et moins performante, lui, il est beaucoup plus. Donc, c'est lui là qui accompagne vraiment la croissance de l'entreprise aujourd'hui. Parce que pour moi, c'est devenu presque trop gros. En fait, je suis très, très loin des petits bijoux que je faisais sur la table de la salle à manger. Ça a pris une ampleur complètement différente. Et forcément, il n'y a plus la polyvalence du début, même pour moi. Et donc, je me retrouve, moi, cantonnée à des tâches qui ne sont pas celles dans lesquelles je m'épanouis le plus. Donc, je pense à la comptabilité, aux ressources humaines, aux fiches de paye. Ouais. Donc, c'est vrai que ça a été pas mal de discussions avec Jean. Moi, j'ai pris un peu de recul là ces derniers temps parce que faut que ça reste aussi, je pense que faut que ça reste du plaisir pour tout le monde et c'est important de savoir dire. J'ai eu du mal hein, parce que c'est vrai que l'aventure est tellement folle que faire un peu la difficile en disant oui, mais maintenant, moi, c'est un peu gros donc je m'y retrouve plus trop. Mais je pense que c'est important. Et donc, moi, je me suis mise sur un autre projet. Là, j'ai ouvert une petite boutique il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Le Tourbillon.
Oh!
Exactement. Et tu sais pourquoi ça s'appelle Le Tourbillon? Parce que c'est la maison de vacances dans laquelle j'ai grandi. C'est le nom de la maison de vacances de mes grands-parents.
Waouh! Il fallait qu'on se rencontre. Alors, c'était écrit.
Tu vois? C'était écrit. Mais en fait, tu sais que c'est comme ça que je t'ai connue, moi. Parce que quand je tague mes petits posts sur Insta, je vois tout le temps, je tape Le Tourbillon et j'ai Le Tourbillon podcast qui vient tout le temps. Donc, si je te tague un jour, c'est parce que j'ai cliqué sur le mauvais tourbillon.
Et alors, c'est quoi ce projet?
Alors, ce projet, c'est une boutique qui est sur Lacanau, là, on habite aujourd'hui. Et moi, j'avais envie de proximité. C'est quelque chose qui m'est venu un peu. C'est pas du tout. J'ai jamais voulu forcément avoir un commerce physique. Mais je pense que, là, en vieillissant un petit peu, le e-commerce, il y a ce côté un peu numérique que je connais bien maintenant. Et j'ai eu envie de voir mes clients. Donc, j'ai ouvert une petite boutique. Alors, il y a du Happy Bull dedans, mais pas que, parce que forcément, Lacanau, c'est pas une très grande ville. Donc là, j'ai ouvert une boutique de cadeaux, un petit concept store créatif.
Et pourquoi justement ne pas avoir fait de boutique physique pour Happy Bull?
Alors, c'est pas qu'on ne l'a pas fait, c'est qu'on ne l'a pas encore fait.
Ah.
Oui, c'est en projet. En fait, on voulait vraiment, on a plein de projets en interne sur l'architecture de notre site, sur qu'on est en train vraiment de refondre pour pouvoir accompagner la croissance. Et ce qu'on voudrait proposer en boutique physique, c'est quelque chose d'assez novateur, c'est de la personnalisation en minute, en fait. Proposer la qualité de service et de gravure qu'on a aujourd'hui, la proposer en physique, mais dans un délai très très court. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour se faire personnaliser un bijou, souvent, sauf c'est des bijoutiers un peu classiques, on va dire, le bijou part à l'atelier, on le récupère quelques jours après. Nous, on aimerait proposer un concept où on peut même venir avec son enfant, il y aurait des tablettes, l'enfant dessine, et on repart 10 minutes plus tard avec le bijou personnalisé. Donc pour faire ça, il faut avoir la structure en fait informatique et le site qui soit prêt. Donc on y est bientôt, donc on va pouvoir se lancer.
Ah, génial! Et donc toi, tu vas quand même garder ta boutique à côté et tu ne seras pas dans cette boutique
Alors moi, la boutique que j'ai aujourd'hui, je ne m'en occupe pas à temps plein parce que forcément, je ne peux pas tout faire. Mais ça me permet aussi, je l'ai vu aussi un peu comme ça. Pour moi, c'était le moyen de connaître un peu mieux le commerce physique avant d'ouvrir la boutique à Pibule. De connaître aussi un peu mieux les contraintes du physique parce que, ben voilà, Jérôme et moi, nos collaborateurs sont très e-commerce en fait. Donc, on n'a pas cette compétence-là en interne. Donc, je me suis fait ma petite formation moi-même. Et évidemment, si, alors je ne sais pas si c'est moi qui m'occuperai de la boutique à temps plein, mais j'y amènerai ma petite touch.
Génial. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voudrais parler pour Happybulle dont je n'ai pas parlé?
On a un autre site internet qui s'appelle Lovely Truff. Je ne sais pas si tu le connais.
Pas du tout.
En fait, on s'est rendu compte qu'on avait sur Happybulle des gens qui commandaient des médailles pour leurs animaux de compagnie, des médailles en or et en argent. Et on se dit, mais c'est bizarre quand même. Parce que c'est revenu assez souvent. Et comme moi, ouais, j'aime beaucoup... cette phase du projet, enfin de l'idée à la mise en ligne, c'est ce que je préfère. On a créé un autre site qui s'appelle Lovely Truff et qui marche très bien aussi, mais qui est dédié aux animaux de compagnie.
Ah, excellent. Et alors, pour Happybulle, les bijoux, moi, j'en porte un. Franchement, ça m'a énormément touchée d'avoir ce petit mot de mon fils gravé. C'est des super jolis cadeaux pour les familles. Qu'est-ce qu'elles vous disent, justement, les familles, puisqu'il y a un côté émotionnel quand même qui est super fort dans ce concept?
Ouais, et c'est tellement chouette, en fait, d'avoir créé cette entreprise pour ça. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai créé cette première plateforme qui s'appelait Jimdo, il y avait la possibilité de mettre un livre d'or. Donc, j'ai laissé la possibilité aux clients de venir spontanément, de leur propre initiative, laisser un commentaire. Et donc, ce livre d'or s'est enrichi au fur et à mesure du temps. Avec des commentaires, mais vraiment, c'est vraiment ce que tu décris. C'est le côté émotionnel, affectif, quand on découvre un bijou qui a été fait par notre enfant. Il est unique, ce bijou. Et donc, c'est tellement plein de bonnes vibes, en fait, quand on nous laisse des commentaires, c'est vraiment chouette. Et donc, ce livre d'or a accumulé des centaines et des centaines de commentaires. Et on a quelqu'un un jour qui nous a dit, mais... c'est pas possible, en fait, vous pouvez pas avoir autant de commentaires positifs, vous devez trier ou je ne sais pas quoi. Et donc, on est passé justement, quand on a quitté Jimdo pour notre plateforme, on est passé sur PrestaShop, on a pris un système d'avis certifié justement maintenant pour que tous les commentaires qui soient publiés sur le site soient des commentaires indépendants, qui ne transitent pas par nous, en fait, on ne peut pas les modérer. Pour justement assurer nos clients que non, c'est bien, ce sont des vrais commentaires. Et donc, dans ces commentaires, on peut... Enfin, moi, quand j'ai un petit coup de mou, je vais lire les commentaires, en fait. Ça me redonne la banane parce que je trouve ça génial. Et c'est vrai que t'as des circonstances heureuses très souvent. Et puis, quelque chose que j'avais pas forcément soupçonné, c'est dans des moments un peu plus douloureux, justement... Nos bijoux peuvent apporter un peu de réconfort. On a beaucoup de mamans qui ont perdu leur bébé.
Ah oui.
Alors, in utero ou peu de temps après la naissance. Et dans les maternités, ce qui laisse souvent aux parents, c'est les empreintes des enfants. Et c'est vrai que les parents peuvent garder les empreintes, graver les empreintes de leur bébé via notre site. Et on a eu des commentaires, mais tellement touchants de parents qui sont vraiment très... Enfin, ça leur réchauffe le cœur, on le sent, de pouvoir garder, en fait... parce que souvent, c'est vrai que moi, je m'y suis pas mal intéressée aussi dans le cadre de l'hôpital. Tout ce qui est deuil périnatal, c'est un deuil qui n'est pas très bien pris en charge. Ça évolue, mais c'est vrai que pour beaucoup de parents, et parfois pour l'entourage de ses parents ne prend pas forcément toujours la mesure de ce deuil. Et avoir cette trace, en fait, j'ai pu vraiment constater que c'est très important. Et donc, bah, que ce soit des circonstances heureuses ou un peu moins, on apporte vraiment quelque chose. Et ça, c'est, ça n'a pas de prix, quoi. C'est vraiment super.
Ouais. Bravo.
Merci.
Comment tes filles, elles voient tout ça aujourd'hui, puisqu'elles ont suivi finalement toute l'évolution de ton entreprise, de votre entreprise maintenant, Jérôme et toi?
Alors, quand elles étaient toutes petites, bah voilà, ce que je t'ai décrit un peu, elles participaient de manière un peu ludique à l'aventure. Et puis, après, elles ont su nous rappeler à l'ordre parce que on travaille en couple et c'est pas simple. Et on a traversé des périodes assez compliquées parce qu'on a eu du mal à faire la distinction entre le travail et la maison.
Oui.
Et quand nos filles nous ont dit bah, « maintenant, ça suffit, en gros, à Pibule, on n'en peut plus, on ne veut plus en entendre parler », on s'est dit « bon, il va falloir qu'on fasse attention ». Donc, on s'est mis des règles. Et passé ce petit moment où elles ont su, c'est chouette justement parce que c'est elles qui ont su nous dire que c'était un peu trop. Je pense qu'elles sont très fières. Sont très fiers de nous. On a eu la chance effectivement d'avoir quelques parutions dans les médias et tu sais, elles rechignent un peu. On veut pas les exposer, mais la dernière fois c'était TF1 qui était venu et donc il y avait juste eu un tout petit portrait. Vous nous filmez de dos en famille. Et au début, tu sais, elles disaient oh, non. Et puis on a dit bon bah d'accord, il n'y a aucun problème si vous voulez. Bon, si, d'accord, on le fait. Hein. Je pense que voilà, elles sont très pudiques, mais elles sont fières de nous et on est fiers d'elles aussi parce qu'elles nous apportent beaucoup.
Et alors toi, si tu regardes tout ce chemin parcouru, 11 ans d'Apibule cette année?
Oui. Eh bien, ça a beaucoup, beaucoup changé en 11 ans. Ce que je retiendrai, c'est que tout est possible, en fait. Hein. Même des choses auxquelles on a du mal à croire, tout est possible. On peut changer de vie, on peut rechanger de vie. C'est ce que j'essaie d'inculquer à mes filles quand je les entends parfois se mettre des barrières un peu, se dire « Louison, elle voudrait travailler dans l'édition ». Mais on lui a dit que travailler dans l'édition, c'était très compliqué parce qu'il y avait très peu de postes. Mais je lui ai dit que... on est les seuls à se mettre des barrières. Donc si on y croit, on peut tout faire. Et après, non, ben moi, j'ai découvert plein de métiers au cours de ces 11 ans. Certains que j'aime beaucoup, d'autres que j'aime un peu moins. Et non, enfin, c'est très, très positif. C'est une super aventure. C'est pas facile tous les jours, parce que c'est vrai que quand je raconte un peu rapidement notre aventure, et là on en est aujourd'hui, on peut se dire que ça a l'air comme ça simple en fait de changer de vie et voilà de se réinventer un peu. Après moi clairement je vais pas ni me mentir ni mentir aux autres, je suis vraiment passée par des moments difficiles. L'entrepreneuriat a plein de titres et quand on est maman c'est pas simple.
Quelles ont été toi tes difficultés?
Ben moi, mes difficultés, elles ont été diverses, mais ça a été moi la manière dont j'ai créé mon entreprise, c'est-à-dire en parallèle d'un emploi salarié. Alors certes, elle m'a permis de prendre moins de risques et de faire peser moins de risques sur mon foyer. Par contre, sur ma santé et ma fatigue et ma manière de combiner ma vie professionnelle et ma vie personnelle, ça a été assez difficile, vraiment. J'ai eu des moments, heureusement que Jérôme était là, parce que moi, sinon, j'aurais abandonné depuis longtemps. Quoi. Surtout, à chaque saison, je me disais, mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Je veux juste dormir, en fait, laissez-moi dormir. Il y a ça. Après, il y a effectivement accompagner une entreprise qui grossit vite. C'est pas facile. parce qu'elle change en fait tous les 6 mois quand on recrutait. On recrutait 2-3 personnes tous les 6 mois. L'entreprise, en fait, tous les 6 mois, elle changeait. Donc, ça demande vraiment de l'adaptation. Après, entreprendre en couple aussi, c'est pas facile. Franchement, je pense qu'on est très bien accompagnés et l'aventure, elle est vraiment chouette. Donc, j'ai absolument pas à me plaindre. Maintenant, voilà, je pense qu'il faut s'accrocher.
Ouais. Est-ce que tu trouves qu'il y a un décalage justement entre tout ce qui est montré sur l'entrepreneuriat un peu paillette et la réalité? Tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, par exemple, ou ce qui est dit un peu dans la presse, toutes ces startups, toutes ces success stories.
Je pense, c'est un peu comme Instagram versus reality. Il y a ce qu'on montre, il y a la réussite apparente, on va dire, et puis il y a tout ce qu'on a, tout un peu les sacrifices et les compromis et l'énergie qu'on doit déployer pour en arriver là. Après, si c'était aussi simple, ça aurait moins de... Tout le monde le ferait, et du coup, ça serait moins valorisant. Mais je pense qu'effectivement, j'ai pu participer à certains forums où je parlais de mon aventure, et c'est vrai que dans les commentaires ou les questions que j'avais... Après, c'est difficile de dire... Enfin, c'est pas chouette de dire que c'est tellement difficile d'entreprendre. Ça, c'est pas non plus le but. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas négliger les à côté. Quoi.
Et alors toi, qu'est-ce que ça t'a apporté, toute cette aventure, personnellement, en tant que Dorothée, fondatrice d'Apibulle?
Moi, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ce que je disais, c'est très valorisant. C'est vraiment chouette de partir de rien, d'avoir l'idée. Moi, ce que je te dis, j'ai adoré les toutes premières années parce que tout était à faire. Il fallait trouver une solution pour tout. Et ça, quand c'est toi qui le fais et que tu vois que derrière ça marche et que tu recrutes des gens, ça aussi, c'est super. C'est créer des emplois. Enfin, c'est que moi, ça m'amène énormément dans mon estime de moi et ma confiance en moi, si je peux dire ça comme ça, ouais. C'est vraiment super. Qu'est-ce que ça m'apporte après? Ça m'apporte aussi de pouvoir être une maman qui gère son temps comme elle veut. Et ça n'a pas de prix. Parce que c'est vrai qu'être salariée, je l'ai été et je sais que c'est pas facile. Surtout à ce niveau-là. Quand on est maman, c'est souvent difficile de combiner les deux. Moi, aujourd'hui, j'ai une qualité de vie. Alors certes, voilà, ça a été un peu compliqué, mais la manière dont je peux m'organiser et profiter de mes enfants aujourd'hui, elle a pas de prix non plus. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis, j'ai souvent dit que c'était difficile d'entreprendre en couple, mais en même temps, réussir en couple, c'est top aussi, parce qu'on partage des choses extra. Mmh. Quand on est invité là à Paris par la FEVAD, pour la start-up de l'année, qu'on partage ça tous les deux, c'est vrai que c'est vraiment chouette. Alors, ça n'empêche pas qu'on se dispute beaucoup, mais quand ça marche et qu'on travaille sur des projets tous les deux et qu'ils aboutissent, c'est vraiment chouette.
Et qu'est-ce que tu dirais à Dorothée, il y a des années de cela, qui ne savait pas trop pourquoi elle était dans ces études-là et qui après s'est lancée dans l'entrepreneuriat?
Je lui dirais, accroche-toi, parce que ça changera à un moment. Tu n'auras pas fait ça pour rien, parce qu'en plus, c'est vrai, je pense que ça m'a vraiment beaucoup apporté, ces études à tous les titres, la prépa pour un peu la capacité à fournir un gros effort de travail. J'ai appris à faire ça, en fait. Donc, c'est vrai que les fois, en prépa, je travaillais la nuit. Après, quand je faisais mes bijoux la nuit, je savais faire. Je savais que j'en étais capable, en tout cas. Et puis, tout le côté ingénieur. Alors, si on met de côté la partie scientifique, dans les études d'ingénieur, on apprend quand même toute une partie d'organisation, de gestion de projet qui m'a forcément servi. Donc je lui dirais, tu fais pas tout ça pour rien, ça te servira bientôt.
Ouais. Et alors, quels sont les projets pour Apibulle?
Voilà, il y en a plein. Ce que je disais un petit peu tout à l'heure, on est en train de restructurer de l'intérieur toute l'architecture de notre site. Donc ça, c'est vrai que du côté client, pour l'instant, ça ne se voit pas encore, mais très bientôt, là, dans les semaines à venir, on va passer en ligne la refonte de notre site. Donc ça va être une expérience client vraiment customisée et très adaptée à l'évolution des modes de consommation. Donc, on va passer sur un site qui va vraiment être optimisé pour le mobile, parce que c'est vrai que la personnalisation sur mobile, c'était peut-être un peu plus compliqué. Et là, nous, avec notre développeur, on a développé donc un nouveau site qui va vraiment être très facile en termes de navigation, de personnalisation. On a pas mal de projets en communication qui vont voir le jour aussi. Beaucoup de nouveautés. On a dessiné pas mal de nouveaux bijoux qui vont sortir un peu les uns après les autres jusqu'à la fête des mères, mais beaucoup de nouveautés. Et puis, le projet boutique qui est dans les tuyaux.
Génial. Merci beaucoup, Dorothée.
Mais merci à toi.
Voilà encore un beau parcours mêlant maternité et brillante idée. Pour personnaliser votre bijou et en faire votre plus précieux souvenir, rendez-vous sur happybulle.com et vous verrez l'émotion que cela va vous procurer.
Si vous souhaitez vous-même entreprendre ou que vous êtes déjà lancé, j'espère que cet épisode vous aura donné envie d'aller au bout de votre projet. À très bientôt pour un nouveau parcours inspirant dans le tourbillon familial.